Bonjour à chacun et à chacune ce matin. C'est vrai que c'est un grand jour de réjouissance. Les cieux se réjouissent aussi, les anges dans le ciel se réjouissent parce que des âmes sont sauvées. Peut-être on dit cela, ce n'est pas une tradition, mesurons ce que c'est. Des hommes, des femmes qui étaient dans la révolte et ennemis de Dieu, un jour sont touchés. Et leur vie échange. Leur vie échange. Il y a une paix qui vient, et puis il y a une œuvre qui commence. Et nous venons d'entendre effectivement le témoignage de deux frères, de ces deux frères qui ont été touchés par le Seigneur. Ils ont été au bénéfice de ce miracle de la nouvelle naissance, par laquelle nous recevons une vie d'une nouvelle nature qui nous place dans un autre royaume. C'est pas une petite amélioration, c'est un bouleversement de vie, c'est une autre vie. On reçoit deux fois la vie, en tout cas on est appelé à la recevoir deux fois, la première naissance naturelle, dont on n'a pas forcément celle-là conscience, hein, et pourtant elle a bien lieu, et puis une deuxième naissance, celle qui vient d'en haut, et celle-là on en a conscience. On ne peut pas ne pas en avoir conscience. Donc quiconque reçoit cette vie nouvelle reçoit par la foi le Père et le Fils dans son cœur, par le Saint-Esprit qui nous révèle ces réalités. Dans 15 jours, nous nous souviendrons de la Pentecôte qui a suivi la résurrection de notre Seigneur. Pentecôte qui a inauguré les temps de l'Église, le temps de la fiancée, temps au cours duquel la promesse de Jésus est accomplie, cette promesse qu'il nous donne dans Jean 16. « Maintenant je m'en vais, dit Jésus, vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et un peu plus loin, il me glorifiera, ce Consolateur, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, quelques temps, quelques heures avant sa crucifixion, sa mort, puis sa résurrection, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Et là, Jésus évoque deux choses. Il évoque bien sûr que ses disciples le reverront ressuscité. Il était paru à plusieurs reprises à ses disciples, et puis jusqu'à 500 personnes à la fois. Mais aussi, dans un autre passage, il dit, vous me verrez, vous, parce que vous aurez été éclairés. Et vous me verrez avec vos yeux spirituels que je vous ouvrirai. Et ce matin, je voudrais que vous inviter à contempler. Nous n'allons pas méditer, nous allons contempler. Nous allons contempler Jésus-Christ, lui qui est le premier. Il est le premier en tout. Et à travers le témoignage de nos frères et cette vie nouvelle qui commence pour eux, je crois que nous avons là un rappel, que nous avons besoin. La clé de la vie chrétienne, c'est de contempler notre Sauveur, notre Seigneur, c'est à ça que nous sommes appelés pour l'éternité, mais dès ici-bas, c'est de cela dont nous avons besoin en premier. Parce que nous parlons souvent, et c'est juste, des exigences de la sainteté, etc., mais nous n'avons pas ça en nous-mêmes. Et nous avons besoin de contempler celui qui est notre Sauveur, celui qui est notre Seigneur, et de parler de ses qualités, de parler de qui il est, et alors les choses se reflètent, et là, nous recevons des choses. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous ne la recevons pas de celui qui a été l'obéissant parfait, le Fils parfait, Jésus-Christ. Alors simplement ce matin, je veux partager avec vous le thème de mon message, c'est « Lui le premier, nous les prémices » ou encore « Le déjà et pas encore du chrétien cheminant sur cette terre à destination de sa cité céleste ». Voilà, simplement, si vous voulez m'accompagner, on va partager quelques versets de la parole, et puis, à travers ça, on va contempler celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous aime, celui qui est élevé maintenant dans la gloire. Contempler celui dont Pierre va nous dire à la Pentecôte, cette parole merveilleuse qui précède les versets que Jean-Luc a lus, que tout, il conclut son discours comme ça, Pierre, que toute la maison d'Israël, et nous aussi, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, cet homme que vous avez crucifié. Trois pensées dans cette courte phrase. Ce Jésus, cet homme, qui a une vie extraordinaire, est entièrement homme, mais aussi il est, et c'est la deuxième pensée, le Christ, celui qui est oint et envoyé, celui qui était au commencement auprès du Créateur et qui n'a pas revendiqué sa condition divine, qui s'est humilié avant de quitter son ciel de gloire pour s'incarner dans une chair semblable à la nôtre et pour cette raison accepter de renoncer à ses droits divins. C'est pourquoi, troisième point dans cette courte déclaration, il a été fait Seigneur par celui qui est le souverain bienheureux et tout-puissant qui l'a ressuscité le premier d'entre les morts. Cette courte phrase de Pierre nous dit trois choses. Ce Jésus, cet homme, c'est lui qui a été envoyé, c'est lui qui a été descendu du ciel, c'est lui qui est remonté et c'est lui qui a été fait Seigneur. Alors, pour introduire ce temps, je vous invite à lire plusieurs passages. Nous en lirons 4-5. Vous savez que j'aime lire la parole parce que finalement, qui mieux que la parole et la révélation de sa parole peut nous éclairer et peut nous conduire dans cette adoration. Marc 9, versets 1 à 10. C'est le récit de la transfiguration qui se situe, je le rappelle, après que Jésus ait demandé à ses disciples « Que dit-on que je suis ?» Et puis après, il leur dit « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et là, il y a cette déclaration de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Pierre, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Révélation, révélation, révélation. Alors Jésus va leur annoncer qu'il doit souffrir et tout de suite derrière, avec un cercle restreint, Pierre, Jacques et Jean, il va les emmener sur la montagne. C'est ce récit que nous lisons maintenant. Marc, chapitre 9, il leur dit encore « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, ah, vous savez, ce Pierre, il a toujours quelque chose à dire. Il aime faire, il est actif, hein, ce Pierre, mais il va être changé, lui aussi. « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, alors il fallait qu'il fasse quelque chose. L'effroi les ayant saisis, une nuée vint les couvrir, et de la nuée est sortie une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoutez-le, est-ce que vous réalisez ? Une voix qui est descendue du ciel, qui est venue du ciel, qui fait cette déclaration extraordinaire, il est en tout le premier, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Après avoir parlé par les prophètes, Dieu dans les temps de temps a parlé par le Fils. Il a fait lui-même la purification des péchés. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. C'est à Pâques. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Jésus-Christ est le premier ressuscité d'entre les morts. D'autres sont ressuscités, mais pour mourir ensuite. Lui est ressuscité d'une manière toute particulière. Il a revêtu le corps de gloire que nous revêturons lorsqu'il reviendra. Il est le premier ressuscité d'entre les morts. Ensuite, nous allons lire dans Actes 1, verset 9. Acte 1, verset 9 à 11. Le récit, cette fois-ci, de, non plus de la transfiguration, mais de l'ascension, hein, qui fait partie du parcours, du plan de Dieu pour le salut. Jésus, qui apparaît, qui est encore apparu à ses disciples et à beaucoup de témoins, leur parle de ce qui va se passer à la Pentecôte, leur parle du royaume des cieux. On n'a pas beaucoup de détails sur ce qu'il leur dit sur le royaume des cieux. Et puis au verset 9, il est dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Il est clair, il a été élevé, il était avec eux sur le mont des Oliviers. Et Jésus-Christ, dans son corps glorieux, s'est élevé et ils l'ont regardé. Et comme ils les avaient, les regards fixés vers le ciel, j'allais dire vers le premier ciel, celui que l'on voit de nos yeux, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, qui a vécu parmi vous pendant 3 ans, qui est mort, qui est ressuscité. Il est maintenant, oui, enlevé, c'est conforme à la promesse que je vous ai lue tout à l'heure. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En même temps, ces anges nous annoncent le retour du Seigneur, cette fois-ci pour régner pleinement sur cette terre pendant le millénium. Encore, nous lisons dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Le temps que vous cherchiez. Colossiens 1, verset 15 nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né à nouveau d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Encore ce verset dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne l'Évangile, son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance lors de son baptême d'eau, lorsque l'Esprit est descendu sur lui, déjà une voix avait parlé du ciel. De nouveau à la transfiguration, enfin à l'ascension. Il y a confirmation, la parole ce n'est pas par des fables, je le répète. Mais nous avons les témoignages d'hommes qui ont vu ces choses. Pierre va dire, nous étions sur la montagne avec lui, lorsqu'il est apparu avec Moïse et Élie, et cette phrase a été prononcée, celui-ci est mon fils bien-aimé, que nous faut-il de plus? Notre foi repose sur le témoignage des prophètes, des apôtres, l'annonce des prophètes, le témoignage des apôtres et de ceux qui ont été témoins de ces choses il y a plus de 2000 ans. Selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Enfin, encore un passage dans Éphésiens 1 au verset 18. Paul, vous savez, Éphésiens 1, ce premier chapitre d'Éphésiens, extraordinaire. Extraordinaire. Un chapitre spirituel, céleste. D'ailleurs, il nous parle que de notre avenir, que de notre destinée, où nous célébrerons la gloire pour l'éternité, parce que c'est à ça que nous sommes destinés. C'est pour ça que nous sommes faits. Et au verset 18, Paul prie « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ». Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je m'adresse là à ceux qui font de la physique. P égale UI. La puissance, c'est le produit d'un potentiel avec une intensité. C'est ce que nous dit cette phrase. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa dynamisme? Vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 2:4, ça c'est Christ qui a été ressuscité par la puissance du Père et la puissance du Saint-Esprit, opérant par la puissance du Père, opérant par la force du Saint-Esprit. Il a ressuscité Christ dans l'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite du Père dans les lieux célestes. Et Éphésiens 2 nous dit, au verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Frères et sœurs, on peut se redire ça. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, entre parenthèses. Est-ce qu'on peut mettre ça entre parenthèses ? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où ça et en qui ? En Christ. Donc Christ est le premier qui a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père se manifestant avec efficacité de la force du Saint-Esprit. Et nous, qui étions pécheurs, qui étions morts dans nos péchés, nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes immédiatement aussi élevés dans les lieux célestes. Et nous sommes assis ensemble. On ne pourra pas faire notre petit parcours chacun. Ensemble, en Christ, qui est la tête de l'Église, qui est l'Église, nous sommes son corps. Ces choses sont réalisées, frères et sœurs, ce ne sont pas des promesses. C'est notre position normale d'enfant de Dieu assis dans les lieux célestes. Pourquoi ça ? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Des textes importants, mais qui sont une prédication en eux-mêmes. Alors, moi je vais simplement, en quelques, assez courtement, prendre trois points. Il est le premier en tout. Deuxièmement, il est un premier qui ne reste pas seul. Troisièmement, nous sommes les prémices. Il est le premier homme parfaitement homme qui n'a pas péché. Jésus pourra dire, il n'a rien en moi. Au moment d'aller à la croix, à Gethsémané, et dans ce parcours, il sait où il va. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Par obéissance au Père, par amour pour le Père, par accord plein avec le Père sur le plan du salut. Il la donne. Et il peut dire, il n'a rien, l'adversaire n'a rien en lui. Il n'a rien, ce qui n'était pas notre cas. Mais il n'a rien en Jésus-Christ. Il est le premier homme en qui l'adversaire n'a rien, n'a aucune prise. Il est le premier ressuscité d'entre les morts. Dans le discours de Pierre, Pierre va dire, il n'était pas possible que les liens de la mort le retiennent. Et il fait une démonstration merveilleuse à partir des psaumes 110, que David prononce, où Pierre va démontrer que David ne peut pas parler de lui-même, puisque lui est mort, il est décomposé, son tombeau est parmi nous. Donc, comme David était prophète, dit Pierre, c'est de Christ dont il parle. Son corps ne verra pas la corruption, et son corps n'a pas vu la corruption. Il est le premier homme venu du ciel et retourné au ciel. C'est par une étoile que les bergers ont été guidés. C'est par un astre céleste que les bergers ont été guidés vers l'enfant Jésus. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est le premier à paraître durant sa vie terrestre dans une gloire céleste sur la montagne de la Transfiguration avec un témoignage glorieux du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui gémit, dit le Père, toute mon affection, écoutez-le, ce premier homme. Il est à la fois de la terre, il est à la fois du ciel. Il est incarné, parfaitement homme, mais il est venu du ciel. Conçu du Saint-Esprit, né de Marie, une femme. Pécheresse, une femme, qui va dire, quelle grâce qui m'est faite. Il est le premier. Il est le premier. Mais c'est un premier qui ne reste pas seul. Il dit, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a deux choses. Il est clairement fait allusion, c'est plus qu'une allusion, le texte nous le précise, car il savait de quelle mort il allait mourir. Donc il est bien parlé de son élévation à la croix. Quand j'aurai été élevé à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais je crois qu'il y a aussi sa position céleste. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il ne reste pas seul, il nous attire à lui. Il y a dans Philippiens, où on souligne l'humiliation de Christ, qui n'a pas revendiqué sa condition divine, mais s'est humilié jusqu'à prendre la condition d'homme et à mourir sur la croix. Il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et là, ce n'est pas le même terme que élevé à la croix. Il est dit, Dieu l'a surélevé. Dieu l'a surélevé. À la croix, il l'a élevé au-dessus de la terre. Et parce qu'il est passé à la croix, et qu'il est ressuscité par la puissance du Père, il est remonté aux cieux. Et Dieu, le Père, l'a surélevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Il ne reste pas seul, je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est bon là ou c'est... Attendez, je remets ça. Voilà. Il l'a surélevé au-dessus de tout. Que ce soit bien clair, frères et sœurs, pour nous. Il est notre Sauveur, il est le Seigneur. Toute autorité lui a été donnée par le Père, une pleine délégation. Jusqu'au jugement dernier, jusqu'au nouveau ciel ou la nouvelle terre, où il remettra toute l'autorité qui lui a été donnée au Père. Alors le Père sera tout en tous. Et lui sera toujours à la droite du Père. L'agneau immolé, l'agneau sur le trône, qui règnera. Nous serons dans la cité céleste. Il n'y aura plus besoin de lampadaires dans la ville. Il sera la lumière qu'il est déjà. Un premier qui ne reste pas seul, je rappelle Éphésiens 2, à cause de l'amour dont tu nous as aimés, il nous a fait asseoir, il nous a pris ensemble. Il n'est pas resté seul, il n'est pas monté seul. Maintenant, il nous attire. Mais il était nécessaire qu'il soit le premier, qu'il soit dans cette position glorieuse, pour que le chemin soit ouvert. Hébreux 10 nous le rappelle maintenant, le chemin du trône de la grâce, il est ouvert. Approchons-nous donc avec crainte, mais avec assurance, du trône de la grâce. Le voile est déchiré. Il est passé, il nous a précédés. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il marche devant nous. Il marche devant nous. Il est devant nous, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est en tout le premier. Nous étions morts dans nos péchés, il nous a pris avec lui au tombeau et nous sommes désormais vivants. Mais non, frères et sœurs, pour nous-mêmes. C'est fini celui-là. Le vieil homme, la vieille femme qui vivait pour elle-même, il nous a ressuscités et nous sommes donc vivants, mais la parole ajoute pour lui. Nous sommes vivants maintenant pour lui, pas pour nous-mêmes. Alors nous, nous sommes les prémices. Mais il est dit aussi de Christ, à plusieurs reprises, qu'il est les prémices. Alors j'ai regardé, je me dis, ben, on est tous les prémices. Encore là, comme élevé et surélevé, d'une manière différente. Christ est les prémices, le premier sens de ce terme, et qui s'applique à Christ. Il est celui qui précède, celui qui est la tête, celui, il y a une traduction qui dit, qui mène la danse. Et Christ est prémisse dans ce sens. Nous, nous sommes les prémices dans le sens du déjà et pas encore. Nous avons une part de Christ. C'est Christ qui habite en nous. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Nous sommes assis dans les lieux célestes et une part de nous est encore dans ce monde, mais pas du monde. Nous avons Christ en nous. Nous vivons le prélude. Nous vivons ici-bas le prélude. Le prélude de ce chant de gloire qui durera l'éternité. Nous vivons ici-bas, frères et sœurs, le prélude. C'est beau ce mot, le prélude. Le prélude. Ce qui précède les temps énormes, infinis, où nous célébrerons la gloire de notre Seigneur, dans un corps qui ne nous fera plus souffrir. Nous vivons le prélude. Déjà nous avons ce que nous sommes ne paraît pas encore, mais nous avons déjà reçu les arts de l'Esprit. Vous l'avez déjà rappelé, les arts. Quand on verse les arts, c'est la promesse qu'on aura le tout. C'est un engagement. Il nous a donné les arts de l'Esprit. Il nous invite déjà à être remplis. Mais nous savons que des choses s'y opposent, ne serait-ce que notre corps de chair en qui habite encore la puissance du péché. Mais nous avons reçu les arts de l'Esprit. Nous sommes invités à recevoir aussi la plénitude. Nous sommes les prémices. Nous avons reçu déjà tout cela. Et nous sommes invités à contempler Christ. Parce qu'en contemplant Christ, c'est comme cela que nous sommes transformés et rendus capables de satisfaire les exigences qui sont celles qui nous sont données dans la parole. Renonçons à chercher en nous-mêmes de quoi satisfaire l'exigence de sainteté, de fidélité, de force et de joie que le Seigneur nous commande. Soyez saints car je suis saint. Comment voulez-vous vivre cela si nous ne le recevons de lui en le contemplant? Frères et sœurs, peut-être vous êtes découragés, certains, en disant « j'essaye, j'ai fait des efforts, etc. » Moi, ça m'arrive souvent. Mais c'est ça qui m'inspire aussi. Je me dis « mais Robert, tu te trompes. Tu ne peux pas chercher en toi, tu n'as pas. Ce que tu vas trouver en toi, ce n'est pas Jobard. » Contemple Christ. Contemple ton Sauveur. Contemple-le sur son trône, élevé. Tu le peux, parce que Paul a prié. Et je crois que sa prière a été exaucée, qu'il illumine les yeux de notre cœur, que nous voyons celui qui règne déjà aujourd'hui. Alors, on va pouvoir être saint comme il est saint. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis de Christ. Paul dit cela parce qu'il déclare, Christ est ma vie. Croyez-vous que Paul n'a pas été réattaqué par l'ennemi sur son passé, lui qui ravageait l'église, prenant les chrétiens dans leur maison? Vous croyez que l'ennemi ne lui a pas rappelé? Si on n'a pas les yeux fixés sur le Sauveur, on ne tient pas. Aucun. Tous n'ont pas persécuté, n'ont pas ravagé l'église parmi nous, encore que. Si on ne serait-ce qu'on s'est moqué, si on a été froid, on a persécuté. Nous attendons encore notre Sauveur. Philippiens 3, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frères et sœurs, je ne comprends pas ce passage. Philippiens 3, verset 20, il s'adresse à des chrétiens. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons déjà reçu comme Sauveur. Oui, il n'y a pas contradiction. Nous l'avons reçu comme Sauveur. Et notre vie a été transformée. Notre esprit a été touché. Et notre esprit est en communion maintenant avec l'Esprit de Dieu. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes encore, Pierre va nous inviter à travailler à notre salut pour le renouvellement de notre intelligence, pour que nous soyons transformés. Il nous annonce encore, il nous est annoncé encore que lorsque Christ paraîtra, une grâce particulière nous sera donnée. Parce que je ne sais pas où on en sera les uns les autres. Lorsque Christ apparaîtra, s'il revient demain, serons-nous tous prêts? La parole nous encourage encore. Une grâce particulière nous sera donnée lorsqu'il reviendra. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Le Seigneur sait notre misère, notre propension à nous éloigner de lui. Nos efforts à la chair pour lui plaire, nous ne pouvons pas. Troisième stade, nous attendons notre Sauveur. Encore, nous l'attendons encore pour ce corps qui est un corps de misère, un corps qu'il peut guérir et qu'il guérit, mais qui globalement mourra, périra. Et en tout cas, pour ceux qui seront là lorsque le Seigneur reviendra, qu'il revienne, Maranatha. Ce corps, il est corruptible aujourd'hui. Il sera incorruptible. Donc nous serons sauvés. La rédemption de notre corps, il nous le promet aussi. Alors frères et sœurs, contemplons le Seigneur Jésus-Christ qui lui est déjà dans la gloire, qui est le premier en tout, qui nous attire à lui. Nous sommes les prémices, nous avons déjà reçu, mais nous attendons encore. Demeurons fermes dans la foi, dans sa parole et dans son amour. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de ce que non seulement tu nous as arrachés de la boue de notre péché, nous étions morts dans nos péchés et nous marchions dans notre péché, Seigneur, nous dit la parole. Mais Père, tu es riche en bonté, en miséricorde. Tu nous as arrachés de là par l'œuvre accomplie, suffisante de ton Fils. Et non seulement cela, Seigneur, mais maintenant, tu nous as fait asseoir avec toi et en toi dans les lieux célestes. Nous te louons, nous te bénissons. Je te prie ce matin, Seigneur, que ces réalités viennent encore prendre place. Qu'au-delà, Seigneur, des circonstances que nous vivons, parce que tu l'as dit, Seigneur, tu nous as laissés. Je m'en vais au Père, mais eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Seigneur, tu vois les oppositions qu'il peut y avoir. Tu vois les combats. Mais c'est ton Église, Seigneur. Et tu la vois belle. Et tu la prépares, ta fiancée, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous que nous puissions avoir les regards fixés sur toi. Et que ta gloire illumine notre cœur et qu'elle se reflète. Nous n'avons pas en nous, Seigneur, de quoi satisfaire ta sainteté. Nous n'avons pas en nous la force, Seigneur. La force, elle est en toi, Jésus-Christ. Nous n'avons pas en nous la joie, Seigneur, du salut. Rends-la nous, Seigneur. Donne-la nous avec abondance, parce que c'est ta volonté. Viens encore purifier nos cœurs. Tu nous as pardonnés. Viens purifier, Seigneur. Et tu le fais. Et Seigneur, nous travaillons à notre salut en attendant la glorieuse espérance. Nous l'attendons avec assurance, Seigneur. Et nous te louons, nous te bénissons, que ce matin encore, Seigneur, tu attires à toi, tu sauves encore et tu arraches encore des tisons au feu. Et tu vas continuer de le faire jusqu'à ton retour. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.